Hello, beautifuls! Je suis si excitée de vous présenter ma formation de 200 heures accréditée Yoga Alliance pour devenir professeur de yoga et un pilier de transformation personnelle dans votre communauté. Il y a tellement à découvrir sur la formation et vous allez adorer redevenir élève. Que ce soit les pratiques complètes de yoga, ajustées par moi ou par mon assistante, qui vous permettront de développer une pratique solide tout en plongeant dans les mythes hindous. Aux cours pédagogiques pour apprendre à transmettre avec justesse, aux ateliers d'histoire et de philosophie du yoga et aux cours d'anatomie ludique et appliquée à la pratique elle-même. La formation est conçue pour vous aider à devenir le meilleur professeur de yoga que vous puissiez devenir. Les deux stages immersifs se déroulent à Meta Villa, un lieu high vibes en pleine nature à 40 minutes de Biarritz, en 2024. Pour retrouver plus d'informations, les dates exactes et les conditions d'inscription, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com. I hope to see you there. Ce que j'aime le plus, c'est l'aventure. Partir en rando, en bivouac, dormir sous les étoiles. Prendre le large, apprendre à faire de l'apnée, surfer au lever du matin. Mais parfois, c'est pas facile de trouver les copines disponibles et motivées pour partager ce genre d'aventure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te présenter Audencia. Audencia, c'est une petite agence créée par Maeva qui propose des séjours aventure et bien-être 100% féminin. Au programme, un week-end randonnée à ski avec deux nuits en refuge au cœur des Alpes. De la voile d'hiver et d'été dans les fjords en Norvège. Une rando à cheval et bivouac sur plusieurs jours à travers les Pyrénées. Le tout avec du yoga, de la méditation. Bref, c'est le programme de mes vacances de rêve. Rien besoin d'organiser, juste profiter avec des meufs trop cool. Si tu écoutes ce petit message et que tu embarques toi-même sur un séjour Audencia, n'oublie pas de dire à Maeva lors de ton inscription que tu viens de ma part pour bénéficier d'un petit cadeau de moi-même. Pour découvrir tous les séjours Audencia, rendez-vous sur audencia.com. Épisode avec David Saba. Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk, je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités, pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie, c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anoukcoroller.com et inscris-toi à ma newsletter. Si vous écoutez le podcast depuis un bout de temps, vous savez que je me présente comme une aventurière du monde intérieur. Et cela implique pour moi une curiosité de rester ouverte et de m'intéresser au sujet et surtout aux mises en lumière que peut nous apporter la spiritualité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir sur le podcast David Saba, qui est médium. Sa sensibilité médiumnique lui permet de voir, d'entendre, de ressentir les personnes défuntes, les guides de lumière ainsi que les différents êtres éthérés qui se trouvent dans les dimensions supérieures. Lors de canalisation, David transmet des messages comme des clés qui nous permettent de déverrouiller nos blocages, chasser nos peurs, nos doutes et de mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous vivons afin d'appréhender différemment notre chemin de vie. David a une chaîne YouTube dont les vidéos sont vues des centaines de milliers de fois. Il y aborde les thématiques comme les guides de lumière et les contrats d'âme, les flammes jumelles, les âmes sœurs. Et ce sont d'ailleurs ces thématiques que j'avais envie d'aborder dans la conversation que j'ai avec David. Et dans l'épisode, il partage comment il a découvert sa médiumnité. Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que les âmes sœurs? Qu'est-ce que les flammes jumelles? Quels sont le parcours des flammes jumelles, les différentes étapes, et comment mieux vivre cette relation chaotique? Et puis, tellement plus encore. Pour retrouver le travail de David, rendez-vous sur son site internet, bienvenue dans la médiumnité.com, mais aussi sur Instagram, sur YouTube, David Saba Médium. Je vous laisse sans plus tarder avec notre interview et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Très bonne écoute. Bienvenue David sur le podcast.
Merci Anouk.
Je suis ravie de t'enregistrer aujourd'hui. J'ai découvert ton oracle, c'est pas un jeu, c'est un oracle, message de votre flamme jumelle, qui est très beau, qui a été illustré par une femme qui s'appelle Céline Agnanon. Cet oracle, il m'a énormément guidée, apaisée, et petit à petit, je me suis dit, cette thématique des flammes jumelles, ce serait quelque chose que j'aurais envie d'apporter sur le podcast, des contrats d'âme, de plonger avec quelqu'un dans cette thématique et quelqu'un qui est expert d'une certaine façon. Donc toi, tu es médium, tu pratiques ta médiumnité depuis longtemps. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, tu pourrais tout simplement te présenter?
Alors, je te remercie de l'entrée en matière. Et effectivement, je suis médium depuis une dizaine d'années. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je me suis installé, que je propose des consultations. J'ai toujours été médium, mais j'ai passé une partie de ma vie à ne pas utiliser ma médiumnité, un petit peu à l'état en latence. J'ignorais très honnêtement que j'étais médium. J'avais plein d'informations, mais je n'en faisais rien. Je mettais souvent ça sur le compte du hasard. Et au fil du temps, par plusieurs événements, notamment le décès de ma grand-mère maternelle, et ensuite la rencontre avec une dame qui m'a initié à la méditation, tout est arrivé un peu comme une fulgurance de manière très rapide. Ce sont des évidences qui sont revenues à moi, c'est l'amnésie qui retrouve la mémoire. Toutes les pièces d'un puzzle se sont assemblées, se sont mises en lumière, et devant moi, en fait, s'est inscrit un nouveau chemin, un nouveau parcours. Et à l'intérieur, il y a un nouvel homme qui est né, en fait, et peut-être l'homme que j'ai toujours été, que j'ai toujours cherché. Donc lorsque j'ai pris conscience de ma médiumnité, je n'ai pas du tout cherché à me faire un métier. C'est au fil du temps, en fait, sans me rendre compte, j'ai développé mes dons parce que j'étais ravi de retrouver ma grand-mère maternelle qui me manquait énormément. Ensuite, j'ai rencontré mes guides de lumière. Je suis très clairement tombé amoureux d'eux. J'ai ressenti énormément d'amour. Il y a une relation d'âme à âme et de cœur à cœur qui s'est créée naturellement. Et ce fil conducteur qui est l'amour, qui a été réveillé par ma grand-mère et qui m'a conduit jusqu'à mes guides de lumière, m'a poussé naturellement, en fait, à développer mes dons. J'ai commencé à faire des soins énergétiques, j'entendais les choses, je donnais des messages, en fait, aux personnes que je côtoyais, à mes amis, aux amis des amis. Et en fait, sans me rendre compte, sans le vouloir, j'ai commencé à faire des consultations. Enfin, des consultations, c'est un grand mot. Je donnais des messages un peu spontanément, aux gens qui venaient à moi. Et je crois, au bout de quelques mois, je ne me souviens plus exactement, mes guides m'ont proposé d'en faire un métier. Et là, pour moi, j'ai pas vraiment compris ce qu'on me demandait à l'époque, surtout que ça n'avait pas vraiment de sens. Pour moi, je pensais que je ne pourrais pas vivre de ma médiumnité, que c'était plus un passe-temps ou quelque chose de secondaire, mais pas un réel métier sur lequel j'allais pouvoir m'appuyer et vivre pour gagner ma vie, parce que sur Terre, on a besoin de payer ses factures, de payer son logement, de se nourrir. Et comme tout le monde, j'ai besoin d'argent pour vivre, malheureusement. On n'est plus à l'école du troc où tout est accessible gratuitement. Et lorsque mes guides m'ont fait cette proposition, je me suis dit, enfin, dans un premier temps, je l'ai rejeté en me disant, mais c'est pas un métier. Et en fait, ça, naturellement, en fait, je me suis mis à cogiter et il y a un truc en moi qui a été, c'est un peu comme un comeback. En fait, je me suis rappelé le contact que j'ai avec ma grand-mère, retrouver ma grand-mère qui était décédée 18 ans avant, ressentir son amour, pouvoir avoir des nouvelles de sa part, savoir qu'elle était bien là où elle était. Ça m'a tellement apaisé, ça m'a tellement rassuré, que je me suis dit, en fait, c'est ce que j'ai envie d'offrir aux autres. Puisque moi, je l'ai vécu, pourquoi je ne pourrais pas offrir ça aux autres, ce contact avec un défunt, ou la richesse d'un contact avec une guide de lumière, ce que la guidance peut apporter, ce l'amour qu'il nous envoie, cet amour inconditionnel, et qui est tout autour de nous, à l'intérieur de nous, qui se réactive à leur contact. J'ai tellement été enrichi, en fait, par ces contacts, que je me suis dit, mais c'est peut-être ça, être médium, en fait. C'est apporter un contact avec un défunt et l'amour que l'on peut avoir avec un guide et comprendre ce que l'on vit aujourd'hui, la place que l'on occupe, vers quoi où aller, pourquoi on a des difficultés, pourquoi on n'ose pas parfois, pourquoi on a des difficultés relationnelles dans la famille, dans les amis, dans le monde professionnel également et dans la relation sentimentale. Donc c'est tout ça en fait qui a dit bah oui, pourquoi pas en faire un métier, et ça fait 10 ans que ça dure. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir proposer des consultations, je fais des formations aussi, j'enseigne la médiumnité. Une fausse croyance qui laisse penser que la médiumnité est un don de Dieu et que ça ne s'apprend pas, bah c'est obsolète. Nous ne sommes pas des élus de Dieu ou une élite de la population, nous sommes des hommes et des femmes comme tout le monde. Et la médiumnité se transmet, se partage, s'apprend, comme on peut apprendre à jouer au piano, à dessiner, à chanter, à faire du sport, à tout s'apprend, il faut juste un investissement et de l'engagement. Donc voilà un petit peu mon parcours, comment je suis arrivé à faire ce que je fais et à parler de plein de thématiques, notamment les relations d'âme, comme la relation de flamme jumelle qui est assez singulière et particulière. Et j'aime beaucoup le verbe que tu as employé de plonger dans cette relation et plonger dans les contrats d'âme, parce que je trouve que c'est très évocateur. Ce terme de plonger, c'est un petit peu, je plonge dans un endroit sans savoir où je vais. Il y a une multitude d'informations qu'on peut retrouver. Le fait de plonger vient faire voler en éclats plein de choses, notamment les croyances, les peurs, les doutes. Le karma est réveillé, donc il y a vraiment plein, comme lorsqu'on plonge dans une piscine, il y a plein d'eau qui ressort de notre plongeon. Et lorsqu'on plonge dans la médiumnité, dans la spiritualité, dans le contrat d'âme, il y a plein de choses qui en ressortent, notamment du passé, des contrats karmiques et des engagements que nous venons tenir aujourd'hui avec les âmes sœurs ou avec les âmes jumelles.
Alors là, je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent, mais quoi? Contrat d'âme, flamme jumelle, âme sœur, tout ça, c'est quoi? Est-ce que tu pourrais nous éclairer déjà qu'est-ce que c'est les contrats d'âme?
J'ai presque envie de commencer par qu'est-ce qu'une âme en fait. Avant de parler du contrat qui engage deux âmes, qui lie deux âmes, on va parler de l'âme. Il faut sortir un petit peu de nos incarnations, du plan terrestre, et s'élever sur un plan spirituel et comprendre que sur Terre, nous avons un papa et une maman qui nous donnent naissance, nous rentrons dans une famille, et il y a toute une généalogie qui s'inscrit, qui fait que j'ai des parents, des grands-parents, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines. Il y a toute une généalogie qui fait que je suis différente de toi par le sang. Et par les gènes. Mais de l'autre côté, en fait, nous n'avons pas de père et de mère. Nous avons un créateur. Alors chacun l'appellera comme il veut. Hein. Dans certaines religions, on l'appelle Dieu, l'architecte, le créateur. Certains l'appellent papa. On peut lui trouver plusieurs noms. Je pense que toutes ces terminologies vont faire appel au libre arbitre de chacun et que chacun puisse évoluer avec ses croyances. Mais de l'autre côté, du coup, nous avons un créateur que moi j'aime appeler Dieu. Un dieu père-mère-créateur, c'est l'union du père et de la mère, c'est tout un symbole. On peut l'appeler aussi le Tao, c'est l'union du masculin et du féminin hein, qui crée le Tao. Le yin et le yang, une fois réunis, forment le Tao. Dieu, principe père-mère, principe masculin et féminin réunis, en un grand tout et en tout petit rien aussi également. Et en fait, nous sommes tous issus de cette source d'amour inconditionnel, hein, ce qui fait qu'au niveau de l'âme, nous sommes tous des frères et des sœurs. Sur Terre, nous sommes distanciés et différenciés par ces liens. Génétique et ses liens de sang, mais de l'autre côté, il n'y a pas toutes ces distinctions. Il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de pays différents, il n'y a pas de différences socioculturelles. On est tous sur le même pied de l'égalité et nous sommes tous des frères et des sœurs. Et dans cette multitude d'âmes, parce qu'il y a, je pense, des milliards d'âmes qui existent, et que dans cette multitude d'âmes, il y a des âmes dont nous sommes plus proches. Et c'est par l'amour qui nous relie à ces âmes qu'on décide de s'unir dans des contrats d'âmes. Ce qu'il faut entendre par contrat, c'est engagement. C'est je m'engage à venir sur Terre dans une incarnation, t'épauler, t'accompagner, pour te soutenir, pour te permettre de vivre ce que toi tu as envie de vivre. Et en retour, tu vas également m'accompagner. On donne sans recevoir, on reçoit parfois, sans donner. Il y a vraiment quelque chose qui est libre de circulation. Et c'est l'un des principes universels de vie, ce qui fait que je ne reçois rien, que je ne peux rien donner. Donc dans ces contrats, il y a toujours des engagements qui nous lient. Qui fait que dans nos interactions, que ce soit dans la sphère professionnelle, sentimentale, amicale, toutes les personnes que l'on rencontre, parfois vous avez des contrats qui vous engagent, qui vous lient à ces âmes, et ce sont des contrats d'amour. Quel que soit ce que l'on vit sur Terre, au niveau de l'âme, c'est un engagement qui nous lie par l'amour. C'est parce que l'on s'aime, parce qu'on a ce lien fraternel, qu'on vient se soutenir et s'engager. Il y a des contrats qui sont très, très agréables à vivre. C'est le principe de on va se marier, on va avoir des enfants. Notre contrat, c'est de s'unir par l'amour et d'avoir des enfants, de fonder une famille, de partager la générosité, de faire un don d'altruisme, d'abnégation, de se soutenir, de s'épauler. Et après, des contrats qui sont un peu plus délicats à comprendre, on va faire référence à la trahison, à tout ce qui va être tromperie, les mensonges, l'adultère, le vol, les arnaques. soit professionnelle ou même dans la famille, hein, je le vois moi dans les successions, il y a beaucoup de conflits qui éclatent lorsque les parents décèdent au moment de la succession, les frères et les sœurs se déchirent. Il y a un côté qui ressort, qui fait que voilà, les gens sont oublient un petit peu ce lien fraternel, et ou alors ça fait ressentir les conflits qui étaient en latence depuis des années. Et voilà, donc on a ces contrats qui sont un peu plus délicats, qui viennent nous faire travailler autre chose que les bons côtés de la nature humaine, notamment le pardon. C'est comment pardonner à quelqu'un si on n'est pas trahi ? C'est justement, je vais venir te trahir pour que tu puisses toi expérimenter le pardon. Le pardon est une étape importante dans le parcours de l'âme. C'est celle qui permet de garder l'amour qui est en soi et de se rappeler que cette âme qui vient me trahir sur Terre, c'est mon frère, c'est ma sœur au niveau de l'âme, et que c'est par amour pour moi qu'elle vient me trahir pour que moi je puisse générer un pardon et que je puisse accéder à l'absence de jugement et à l'amour inconditionnel. La grande particularité qu'il existe de l'autre côté et qu'on a oublié lorsqu'on vient sur Terre, c'est le non-jugement. L'amour inconditionnel, l'amour de la source, l'amour de l'âme, l'amour de nos guides, nécessite l'absence de jugement. Ce qui est vécu sur Terre n'est ni bien ni mal. C'est un état de fait. Ce sont des expériences qui nous permettent d'apprendre. Il ne faut pas s'arrêter sur ce que l'on vit, mais sur la manière dont on les vit. Est-ce que ça nous permet d'apprendre, notamment tout ce qui est trahison. Alors, il y a petite trahison. Hein. C'est le mensonge, c'est le vol. Hein. Je t'ai dérobé quelque chose chez toi. Ça peut être une valeur sentimentale ou pécuniaire, peu importe. Et après, il y a la tromperie, il y a l'adultère. Il y a des choses qui sont beaucoup plus marquantes et beaucoup plus dures. Donc, l'âme commence par les petits pardons et va faire des grands pardons. Il y a aussi les étapes comme le courage, la résilience. C'est-à-dire qu'on va avoir des difficultés dans nos vies et certaines personnes vont générer en nous des difficultés. C'est la raison principale qui fait que nous choisissons nos parents. L'âme choisit tout scrupuleusement dans ce qu'elle va vivre. Et nous choisissons nos parents parce que ce sont eux qui vont poser les jalons de ce que nous allons vivre. Ce ne sont pas les parents idéaux, mais ce sont eux dans leurs difficultés, dans leurs croyances, dans leur parcours, qui vont nous accueillir sur Terre. Et qui vont réactiver nos blessures, notamment l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice. On parle souvent de 5 blessures de l'âme, mais il y en a beaucoup plus que 5 pour moi. Il y a la culpabilité, il y a la maltraitance, il y a la honte, il y a la servitude. On pourrait aller bien plus loin que les 5 blessures de l'âme. Et ces blessures ont besoin d'être réactivées, et on vient les réactiver, pas pour nous faire souffrir, mais pour nous permettre de les guérir. Comment savoir si nous avons guéri une blessure ? C'est lorsque l'on est dans une situation de rejet, d'abandon, de trahison, on n'en souffre plus. Lorsque j'appuie sur une blessure, tant qu'elle me fait mal, c'est qu'elle n'est pas guérie. Et le jour, dans une situation de rejet, de trahison ou autre, la blessure ne fait pas mal, c'est qu'on a compris l'essence de cette blessure et qu'elle est guérie. Donc ces contrats nous relient par l'amour, dans l'amour. Et ce qui est intéressant dans cet amour inconditionnel, c'est justement dans toutes ces situations de ne pas oublier que ce sont des liens d'amour qui nous unissent et de toujours se comporter dans l'amour et par amour. Et ne pas se concentrer sur la colère, sur la haine, sur la tristesse, sur ce qui nous manque, sur ce qu'on nous a volé, sur ce qu'on a perdu, mais sur l'amour qui est en soi. C'est pas j'excuse tout ce qui est fait, le mal qu'on m'a fait et les trahisons qui m'ont été faites, mais je vais les comprendre avec l'amour qui est en moi et pas dans la colère qui est en moi, parce que forcément, si on est trahi, si on est blessé, on va avoir mal, on va souffrir, on peut se mettre en colère, on peut détester les gens, mais si je m'attache à la colère qui est en moi, je vais me faire du mal, je vais faire du mal aux autres. Alors que si je me branche sur l'amour qui est en moi, que je sors de la situation et que je reviens en moi, dans l'espace de mon cœur, il y a l'amour qui est en moi, pour moi-même, pour ce que je suis, dans mon intégrité, dans mon respect, je vais rester dans cette énergie d'amour et je vais délier la situation, je vais la comprendre avec l'amour et pas dans la colère, dans la tristesse, dans ce genre de choses. Donc c'est cette notion de contrat, pour le résumer, j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de choses, il faut le voir comme un engagement d'amour entre deux frères ou deux sœurs. Et c'est vraiment cette notion d'amour qu'il faut retenir, et pas la difficulté dans laquelle nous sommes, c'est qu'est-ce que ça permet d'apprendre. On parle d'enseignement spirituel, c'est qu'est-ce que la vie m'apprend. C'est l'école de la vie.
Merci beaucoup pour cette réponse très complète. J'apprécie vraiment que tu arrives à expliquer tout ça de manière très, d'une certaine manière détachée. Bon, ben voilà, c'est ça qui se passe. Et au fond de moi, j'ai envie de dire, ah, mais c'est tellement dur parfois de rester dans cet amour quand on a été trahi. Et j'ai envie de dire, ah ouais, c'est quand même plus facile à dire qu'à faire.
Pas tant que ça.
Non ?
Pas tant que ça. Ça demande de passer par des étapes. Il y a 10 ans, je n'aurais pas du tout tenu le même discours. Dans l'éveil spirituel, il est coutumier ou naturel même de faire du développement personnel. On a besoin de ressources dans la vie pour avancer. Courage, l'estime de soi, la confiance en soi, le lâcher prise, la patience, la foi est extrêmement importante. Savoir se mettre dans le courant de la vie, de lâcher prise, s'en remettre à nos guides, au destin, au hasard aussi. Et ben, c'est les étapes qui te permettent en fait de se détacher du plan matériel, hein, de ce que l'on vit, de comprendre ce que ça apporte. Et on a tous vécu des choses qui nous ont laissés à terre, qui nous ont meurtris. Il y a des deuils, il y a des licenciements, il y a des ruptures, il y a des trahisons, il y a des conflits familiaux qui sont extrêmement compliqués à comprendre et à regarder avec beaucoup de recul. Et c'est justement ce qui nous est un petit peu demandé, c'est nous rappeler qui nous sommes, des âmes, des frères et des sœurs, d'où nous venons, d'une source d'amour inconditionnel, et de ne pas s'attacher à ce que l'on vit, mais à ce que ça nous apporte. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous reliés les uns les autres et que toutes les interactions ont un côté positif et un côté négatif. C'est l'une des lois universelles de nos incarnations. C'est le principe de polarité. Tout ce qui est sur Terre, pardon, est polarisé. C'est le bien, c'est le mal, c'est le ciel et la terre, c'est la gauche et la droite, c'est le recto et le verso. Et dans les situations, en fait, le mental et l'ego vont s'attacher à la polarité négative. Polarité négative ne signifie pas mal. C'est comme une pile électrique, il y a une polarité négative et positive sur une pile électrique pour que le courant puisse circuler. Et dans nos vies, tout est polarisé de manière négative et positive. Mais j'insiste sur le fait que négatif ne veut pas dire mal et positif veut dire bien. Ça permet que justement les choses circulent. Et c'est lorsqu'on regarde les deux facettes de la même scène, cette facette négative qui fait qu'on m'a trahi, et la facette positive, c'est l'amour. C'est la générosité, c'est « je te permets d'expérimenter le pardon ». Et le pardon est une marche essentielle, voire ultime, dans l'amour inconditionnel pour ne plus être dans le jugement. L'ego, c'est celui qui juge, c'est bien et c'est mal. Le mental, c'est celui qui est dans la réflexion et qui va générer les peurs, les doutes. Je ne peux pas, on va se distancier les uns les autres. Le mental et l'ego sont toujours dans la possession, dans je dois posséder, c'est la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, de manquer l'argent, ben je ne sais quoi. Le manque d'amour aussi, j'ai peur de perdre l'autre, j'ai peur qu'on m'oublie, j'ai peur qu'on m'abandonne. Et en fait, on va s'attacher à tout ce qui pourrait arriver, à toutes ces polarités négatives qui sont véhiculées par le mental et l'ego, qui fait qu'on va se distancier les uns des autres. L'âme, elle se concentre dans l'être. Elle se recentre sur l'amour et sur ce lien qui nous unit les uns les autres. Et on a tous besoin les uns les autres. C'est un petit peu ce qui nous manque aujourd'hui, c'est retrouver notre nature humaine. Ce qu'il y avait à une époque plus ancienne, la solidarité, l'entraide, où on tenait la main. On n'avait pas grand-chose, mais on partageait le peu qu'on avait dans un repas ou même dans les champs. Voilà, t'as pas à manger, ben je vais te donner le peu que j'ai, quoi. Je vais partager avec toi. Il y a plein de choses comme ça qu'on a perdu. Donc oui, effectivement, c'est compliqué. Maintenant, si on prend du recul, si on prend de la hauteur et qu'on se détache de notre émotionnel, on va percevoir cette polarité positive. Et ce qui est important, c'est de porter son attention sur qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'apprend, en quoi cette scène est importante pour moi. J'ai écrit un livre intitulé « Je ne suis pas seul dans ma tête », c'est une autobiographie où je raconte mon éveil spirituel qui a été tardif et fulgurant, comme je le disais au début. Et pour expliquer en fait cette période de ma vie, je raconte certains épisodes de ma vie qui vont expliquer pourquoi j'ai eu un éveil spirituel comme le mien. Et en fait, je cite des licenciements qui m'ont laissé à terre, des ruptures, des situations, l'histoire de mes grands-parents paternels, qui est intitulée le pacte des âmes sœurs, où là, en termes de pardon, on ne peut pas faire plus important que le chapitre qui est consacré à mes grands-parents. J'ai vécu, moi, des choses qui sont extrêmement compliquées, mais c'est avec le temps, en fait. C'est lorsque on sort des situations, avec les années, qu'on comprend ce que ça nous a apporté. Et si moi, je m'étais attaché à 23 ans lorsque j'étais lorsque j'étais mis au placard, où on m'a détruit psychologiquement et émotionnellement de la fonction publique, si je m'étais attaché à ça, je ne serais plus ici aujourd'hui. Et grâce à ça, je suis sorti d'un monde qui n'était pas pour moi et ça m'a permis de développer les ressources. Mais à l'époque, j'étais à terre, j'étais écroulé. C'était un jeune homme de 23 ans qui est complètement détruit psychologiquement, émotionnellement, qu'on met au placard. C'est vraiment, tu es une mauvaise personne, il n'y a rien de bon en toi et on va te détruire. C'est vraiment ce que j'ai vécu. On parle de burn-out aujourd'hui, les burn-out sont fréquents. Je pense qu'à l'époque, on n'en parlait pas, mais j'avais 23 ans et c'était un burn-out pour moi. C'était vraiment une destruction psychologique et émotionnelle. Mais merci à la vie, quoi, parce que ça m'a changé. Et ce sont les épreuves qui nous ont durci, ça. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais c'est là où ce qui est difficile, en fait, c'est de sortir de la sienne, de se couper de son émotionnel. Regardez dans vos passés, tous dans vos vies, vous allez forcément avoir des événements qui vous ont rendu service, qui vous ont poussé, qui vous ont demandé de sortir de vos zones de confort, qui vous ont permis de développer des ressources et de ne plus être la même personne. Mais on n'a rien sans rien dans la vie.
Oui, je vois, c'est vraiment prendre du recul, réussir à sortir de ce plan un peu 3D pour croire qu'il y a quelque chose qui se joue, qui là, sur le moment, nous échappe peut-être, mais avoir cette confiance qu'à un moment donné, il y aura peut-être ou peut-être pas une connaissance qui ressortira.
Ouais, et puis tu sais, on peut aussi le regarder différemment, c'est aller discuter avec des personnes qui ont 80 ou 90 ans et demander-leur de vous parler de la vie. Elles ont une sagesse, ces personnes, qui est tout autre de la nôtre, et parce qu'elles ont un parcours, elles ont un vécu. Et quand on arrive à un âge avancé, comme 80, 90 ans, voire même plus, ces personnes ont vécu plusieurs étapes, ils les ont fait souffrir, certains ont vu leurs enfants partir avant eux, quoi de plus compliqué que la perte d'un enfant. Et lorsque tu écoutes ces personnes, elles apportent un regard différent sur leur vie. Et là, c'est riche d'enseignements. À 20 ans, je pensais tout savoir. À 30 ans, je pensais être le roi du monde. Et à 40, j'ai compris que je ne savais strictement rien, que je n'étais qu'un enfant de 5 ans qui s'amusait à courir un peu partout dans l'école de la vie et qui se prenait beaucoup de gadins, en fait. C'est comme lorsqu'on apprend à marcher. Pour apprendre à marcher, on tombe. On tombe pas parce qu'on a fait quelque chose de mal. C'est pas un échec. C'est parce que je tombe que j'apprends à marcher. C'est en tombant que je vais apprendre à marcher parce que l'enfant n'a pas de muscles. C'est pour ça qu'il tombe. L'enfant a besoin de muscles pour marcher. Lorsqu'on n'a jamais marché, on n'a pas de muscles. Et c'est en tombant qu'on va faire nos muscles. Je tombe, j'apprends la chute, j'apprends à me réceptionner, j'accepte de ne pas savoir faire quelque chose et d'être dans un apprentissage. Et c'est en me relevant que je vais gonfler mes muscles, que je vais structurer mes muscles, ils vont me servir dans un second temps à marcher. Et c'est le premier enseignement de nos vies, c'est j'apprends à tomber parce que c'est en me relevant que je vais faire les muscles qui me seront nécessaires pour marcher. Et la vie, elle est comme ça en fait. Elle est basée sur le même enseignement. Pour apprendre à faire quelque chose, il faut passer par les difficultés parce que c'est les difficultés qui te permettent d'avoir des ressources pour ensuite transcender ce qu'on ne sait pas faire.
Et c'est très agréable, je trouve, d'entendre ces mots aussi parce que ça donne espoir et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui disent « Ok, même si je suis tombée, avançons parce qu'un jour, je verrai un petit peu plus clair. » Donc, tu as aussi une chaîne YouTube qui est visionnée par des centaines de milliers de personnes. J'ai regardé quelques vidéos aussi. Et dès le début, tu dis « je ne sais rien ». Et j'ai trouvé ça hyper rassurant. Je me suis dit « ok, cette personne-là, pour moi, elle est safe d'interviewer aussi. » Parce que ben, dans ce monde de la spiritualité, il peut vite y avoir des dérives. Et là, d'annoncer directement ça, j'ai trouvé ça génial. Donc déjà, est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça ?
Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de dérives dans la médiumnité, dans la spiritualité, et notamment sur Internet, hein, parce que lorsqu'on crée une chaîne sur YouTube, on ne demande pas de diplôme, on ne demande rien, en fait, n'importe qui. Il suffit juste d'avoir un compte Gmail pour créer un compte sur YouTube ou Instagram, Facebook ou je ne sais quoi. Et n'importe qui peut prendre un micro, une caméra et raconter ce qu'il a envie de raconter. Et surtout, ce qu'il croit de la vie et ce qu'il a compris de la vie. Et c'est un petit peu ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que toutes les personnes, qu'elles soient diplômées en psychologie, en énergétique, en hypnose, dans la médiumnité, il n'y a pas de diplôme, hein, même s'il y a plein de diplômes qui existent qui ne sont pas forcément reconnus par l'État, il y a des formations que l'on peut faire, et la vie est beaucoup plus formatrice et diplômante qu'une école ou une université, je trouve. N'importe qui peut prendre son micro, sa caméra et raconter ce qu'il comprend de la vie. Mais ce que la personne vit, c'est sa compréhension, ça lui est propre. Et on a le droit de ne pas avoir le même discours, de ne pas être d'accord. Et c'est là où on va rentrer en résonance les uns avec les autres. C'est qu'il faut, on n'a pas forcément besoin d'être d'accord, mais c'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi ou avec quelqu'un d'autre que je vais forcément entrer en conflit avec l'autre. C'est j'accepte qu'on soit pas d'accord, j'accepte qu'on soit différent. Et la richesse, elle est là, en fait, dans cette pluralité qui est visible et audible sur YouTube, c'est qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça m'enrichit, et surtout de ce à quoi je n'adhère pas. Moi, il y a plein de gens, très honnêtement, qui m'agacent fondamentalement et qui me hérissent le poil sur le dos en me disant « mais c'est pas possible de raconter des conneries pareilles ». Tout comme certains vont me regarder en me disant « mais il est bête celui-là, ce qu'il raconte, c'est absurde ». Et c'est OK, ça. On n'a pas le même âge dans l'école de la vie, on n'a pas le même âge au niveau de l'âme. Et on est tous là pour apporter quelque chose. Mais ce qui est important dans tout ça, en fait, c'est retenir votre libre arbitre et le discernement. On ne peut pas se laisser téléguider. Quoi que vous entendiez, quoi que vous puissiez entendre et comprendre de ce que tout le monde véhicule, même par un livre, à la télévision, les médias, les publicitaires, les hommes politiques, nous donnent les informations qu'ils ont besoin de nous donner pour quelque part nous manipuler. Mais ce n'est pas parce qu'ils vont utiliser les leviers d'influence qui sont la peur et le manque, en fait. C'est souvent ce que les publicitaires et les hommes politiques vont utiliser. C'est deux leviers d'influence qu'on appelle la peur et le manque. Ils vont, en fait, nous manipuler comme des marionnettes. C'est OK, ça aussi, mais il faut que ça reste une étape. Et c'est là, c'est je garde mon discernement, je suis autonome, je suis sous ma propre souveraineté, c'est moi qui décide et je me coupe de l'influence des autres. Et pour se couper de l'influence des autres, il faut forcément la reconnaître, pas cette influence. Ok, là je sens que ce qui est dit, ça ne me résonne pas, c'est pas ma vérité, c'est pas juste pour moi, ça le sera peut-être plus tard ou ça le sera peut-être jamais. Et c'est l'une des lois, c'est même la règle numéro un de nos incarnations, c'est le respect du libre-arbitre. Nos guides de lumière ne peuvent pas aller à l'encontre du libre-arbitre de la personne. Si on ne veut pas faire quelque chose, on ne peut pas nous pousser à faire quelque chose. Tout comme Dieu ne peut pas nous pousser à faire quoi que ce soit. C'est le respect du libre-arbitre. Souvent, j'entends des personnes dire « si Dieu n'existe pas, si Dieu existait, il éviterait les guerres, il n'y aurait pas de viol, il n'y aurait pas d'inceste, il n'y aurait pas toutes ces criminalités, toutes ces atrocités qu'il y a sur Terre. » Sauf qu'on attribue un pouvoir à Dieu qu'il n'a pas. Dieu ne peut pas nous empêcher de faire nos bêtises. C'est à l'homme de comprendre qu'il est en train de faire des conneries et de changer son comportement. Ou, moi, en tant que médium, j'essaye d'avoir un peu la vitrine de mes guides. Mes guides me parlent d'une manière, m'accompagnent d'une manière, et j'essaye de retranscrire ça dans mes vidéos et de laisser le libre-arbitre de la personne. Je suis connu un peu pour être un peu, pas brut de décoffrage, mais d'être franc et net, et je ne vais pas dans le sens du poil. Quand j'ai quelque chose à dire, je dis les choses parce que c'est dans ma personnalité, et je pense qu'il faut parfois arrondir les angles, et parfois il faut arrêter de les arrondir. On ne peut pas... voilà, il y a des choses à dire et il faut savoir trancher parfois. Mais surtout, ne perdez jamais votre libre-arbitre, c'est hyper important. Et écoutez votre cœur, c'est hyper important. Lorsqu'on s'incarne, on oublie tout, il y a le reset qui fait qu'en fait, on oublie tout ce qu'on a prévu de vivre. Voilà, et on a besoin de retrouver en chemin, en fait, nos capacités, le discernement, l'autonomie, de découvrir des choses par surprise. Mais surtout, de vous rappeler qu'est-ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qu'on a prévu. Ben, c'est simple, hein, ça se loge dans qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez envie de faire, hein, et surtout pas dans les peurs. Et souvent, on est habitué à fonctionner par les peurs. Moi, j'ai un papa qui est extrêmement négatif, parce qu'il a été élevé comme ça, et justement, l'histoire de mes grands-parents maternels l'ont induit en lui disant, quelque part, tu ne seras jamais heureux. Donc, il nous a élevé comme frère en disant, les garçons, ça sert à rien d'être heureux, ça ne durera pas, vous ne serez jamais heureux. Donc, en fait, il nous a élevé en nous laissant penser qu'on serait malheureux toute notre vie, et en laissant penser que tout ce qui, comment dire, toujours anticiper ce qui pourrait mal se passer. Lorsque j'ai des projets, lorsque je me mets à faire des choses, c'est toujours, imagine, ça ne marche pas. Il faut toujours trouver des parachutes, des moyens de sécuriser les choses. C'est toujours, imagine, ça ne marche pas. Il faut toujours cadenasser, tout verrouiller. Ouais, mais imagine, papa, ça marche bien. Imagine, j'arrive du premier coup. Imagine, je suis heureux. Imagine, tout va bien, quoi. Ce n'est pas dans sa conception, parce qu'il n'a pas été élevé comme ça. Et aujourd'hui, j'ai beau essayer, moi, de lui renvoyer certaines images. Il a beaucoup changé, hein. Avec l'âge on change, mais c'est ancré en lui, c'est toujours, imagine, ça se passe mal. C'est toujours, il va avoir le côté, la polarité négative, lui. Et moi, j'essaye de mettre en avant la polarité positive, hein. Ce qui n'est pas toujours facile. Hein.
Merci pour ce partage personnel. Je trouvais ça bien d'avoir cette conversation aussi avec toi, juste avant de replonger dans les contrats d'âme et notamment les flammes jumelles, parce que je trouve que dans ce que tu partages, il y a quelque chose du coup qui est réempouvoirant. Bien souvent, tu mets un peu ce miroir, les gens te demandent, mais te posent des questions, et en fait, tu les renvoies à eux. Et ça, je trouve ça, voilà, à la fois rassurant, et puis réempouvoirant. Et c'est pour ça que je pense que ton travail m'a permis de m'apaiser sur mon propre chemin. Donc merci pour tout ça. Et puis, rentrons dans ce contrat d'âme que j'avais envie de décortiquer avec toi pour savoir de quoi il s'agit. Quel est le parcours des flammes jumelles ?
Vaste sujet, ce parcours de flammes jumelles. Rappelez-vous, chers auditeurs, que nous avons un créateur qui donne naissance à des âmes et que nous sommes tous des frères et des sœurs au niveau de l'âme. Ces âmes, au fil des incarnations, on se côtoie, on est engagé par des liens d'amour, les contrats d'âme, et certaines de ces âmes deviennent vos âmes sœurs. Ce sont nos meilleures âmes, tout comme sur Terre. Au fil des années, on se porte assistance. C'est dans l'adversité qu'on reconnaît nos amis, et certains de nos amis deviennent nos meilleurs amis. Au niveau de l'âme, c'est la même chose. Ces âmes sœurs dont on entend souvent parler, c'est un lien d'amour qui est créé avec le temps, et c'est au fil des incarnations qu'on tombe amoureux de ces âmes, et que certaines de ces âmes deviennent nos meilleures âmes. Ce sont les âmes sœurs. C'est ce qu'est une âme sœur. Et le lien d'âme jumelle ou de flamme jumelle, on entend parler des deux, pour moi c'est la même chose, hein. C'est deux termes qui sont générés par l'ego et le mental, qui vont souvent, je trouve, alambiquer les choses et les décortiquer de manière très complexe, qui fait qu'il y a toujours des alinéas, des astérix, des parenthèses, des choses qui peuvent, voilà, qui sont très, très allégorées et un peu imaginatives, je trouve. les choses les plus simples sont les plus divines. Dieu est toujours là où on ne l'attend pas, et là où on ne le cherche pas, et là où on ne le voit pas, en fait. Du coup, pour moi, âme jumelle et flamme jumelle, c'est la même chose. Et c'est un lien d'amour, lui aussi. Mais contrairement aux âmes sœurs, qui est un lien qui est créé avec le temps, le lien d'âme jumelle, c'est un lien qui est inné, un lien de naissance. À la naissance de l'âme, parfois, certaines âmes sont scindées en deux âmes. Ce sont deux âmes bien distinctes. Tout comme, parfois, certains embryons donnent naissance à deux bébés. On a un embryon qui, pour des raisons qui sont encore inexpliquées, aujourd'hui, la science est incapable d'expliquer pourquoi un embryon se scinde en deux, en trois ou en quatre, de manière naturelle. Je ne parle pas des filles ou des PMA. De manière naturelle, parfois un embryon va scinder en deux et va donner naissance à deux bébés. Ce sont bien deux bébés distincts avec deux cerveaux, deux personnalités, faux jumeaux, vrais jumeaux. Ils sont identiques ou pas dans, physiquement ou par le caractère. Au niveau de l'âme jumelle, c'est exactement le même procédé. Pour une raison qui est naturelle et inexpliquée, il n'y a aucune volonté de la part de Dieu. C'est vraiment un événement qui est naturel, qui n'est pas explicable. En tout cas, c'est comme ça que moi, on a informé. D'un événement naturel qui fait que l'âme est scindée en deux et qu'elle donne naissance à deux âmes jumelles, comme des bébés. La particularité de ces âmes, c'est qu'au moment de leur naissance, donc il y a la blessure de la séparation avec la source, c'est ce que l'on vient guérir sur Terre, c'est se rappeler de la source, de qui est Dieu, de nous, de là où nous venons, de ce retour à la maison, de l'amour inconditionnel. Nous sommes venus au monde par la source d'amour inconditionnel et nous sommes une petite goutte d'eau de cet amour inconditionnel. C'est ce que nous sommes intrinsèquement. Et le cycle de nos incarnations nous ramène à la maison, à l'amour inconditionnel, à nous rappeler de qui nous sommes et de là où nous venons, de l'amour inconditionnel, et que nous sommes l'amour inconditionnel. La particularité de ces flammes jumelles, c'est qu'elles ont une blessure supplémentaire entre elles. Une âme scindée en deux, coupée en deux, qui fait qu'en fait, elles sont blessées entre elles. C'est une blessure qui n'est pas voulue, qui est générée par leur séparation. Imaginez-vous aujourd'hui être coupée en deux. Ça vous ferait forcément mal. Et il y aura une partie de vous qui va vous manquer. Le côté gauche, le côté droit, le côté haut ou bas, peu importe, dans nos polarités. Ces âmes jumelles sont représentées sous diverses terminologies, là aussi. Et celle qui me parle le plus, moi, sont la polarité masculine et la polarité féminine. On parlera de yin et de yang. Je ne parle pas d'hommes et de femmes, mais de polarité d'énergie masculine et féminine. Tout comme nos guides de lumière sont à tendance masculine ou féminine. Il faut savoir qu'ils ont équilibré leur polarité masculine et féminine, et qu'ils forment à nouveau le Tao. Ces flammes jumelles, à elles deux, sont deux polarités, une masculine et une féminine, qui fait qu'elles sont complémentaires, comme le yin et le yang, qui vont former le Tao. 1 plus 1 égale 3. Le yin et le yang, une fois réunis, forment le Tao. Ce parcours de flammes jumelles vient de leur naissance, de ce lien gemellaire, et de leur lien d'amour qui est inné. Naturellement, j'aime l'autre. Au-delà des apparences, au-delà des filtres, au-delà de notre parcours, de ce que l'on peut vivre, c'est naturellement, j'aime cette âme parce que c'est une partie de moi et qu'elle est en moi, même si elle est à l'extérieur de moi liée à cette séparation. C'est juste un lien d'amour qui est à l'extérieur de soi, mais que l'on peut retrouver en soi. C'est un lien que l'on pourrait également représenter par le lien mère-enfant. Lorsqu'une maman tombe enceinte, lorsqu'elle a un bébé dans son ventre, elle aime instinctivement son enfant, sans savoir si c'est un garçon ou une fille, si elle va lui ressembler ou elle va ressembler au papa. S'il fera de longues études, s'il sera gentil, s'il va être obéissant, c'est l'amour inconditionnel. Au-delà de ce que je vois, de ce que je connais de toi, je t'aime naturellement, sans te voir, sans savoir qui tu es. C'est vraiment le lien d'amour, je vais dire par excellence, le plus pur, qui est dénué de raison, sans aucune raison. Je t'aime. C'est de cette manière que nos guides nous aiment, et c'est de cette manière que notre créateur nous aime, comme une mère aime son enfant qui est bien au chaud dans son ventre. Ce lien d'amour va nous conduire dans un périple, dans nos incarnations. Et la grande différence avec le parcours d'âme sœur, parce que la grande question qui est souvent posée, c'est est-ce que j'ai bien rencontré ma flamme jumelle, ou est-ce que je suis face à une âme sœur, ou un lien toxique, ou un lien karmique ? Rappelez-vous que le lien d'âme sœur, c'est au fil des incarnations qu'on crée ce lien d'amour et que certaines âmes deviennent nos meilleures âmes. Et que le lien d'âme jumelle, c'est un lien de naissance, un lien gemellaire, qui génère naturellement, sans aucune raison, un lien d'amour. Et que la grande particularité des flammes jumelles, c'est qu'elles sont séparées à la naissance et qu'elles ne se côtoient qu'en fin de cycle d'incarnation. Donc les flammes jumelles vont passer tout leur cycle d'incarnation sans jamais se côtoyer, sans jamais s'incarner ensemble, contrairement aux âmes sœurs, où on a des dizaines ou des centaines, je ne sais pas quel nombre on peut avoir d'incarnations en commun, et c'est grâce à ces incarnations communes qu'on a créé ce lien d'amour. et que le parcours de flamme jumelle, on se retrouve en fin de cycle d'incarnation. Ce qui fait qu'on a expérimenté beaucoup de choses, on a les ressources, nous sommes des vieilles âmes, sont soi-disant évoluées, et qu'on va avoir très peu de vie en commun. 2, 3, 4, 5, je ne sais pas trop là aussi si c'est important de mettre un nombre d'incarnation. Une chose est sûre pour moi, c'est qu'on se retrouve en fin de cycle d'incarnation. Fin de cycle d'incarnation ne veut pas dire dernière incarnation. Là aussi, c'est une croyance égotique, je trouve, de dire « je suis dans ma dernière vie ». Parce qu'en soi, à part l'ego, personne ne peut savoir si nous sommes dans notre dernière vie. Parce que ça ne se détermine pas sur Terre, cette notion de dernière vie, ça se détermine de l'autre côté quand on fait le bilan de cette fameuse dernière vie. Donc sur Terre, personne ne peut affirmer être dans sa dernière vie, même si tout le monde a envie de l'être, ou certains en tout cas. Ce parcours de flamme jumelle, du coup, est inhérent à leur naissance, à ce lien d'amour qui est très singulier, qui n'est pas commun sur Terre, parce que nous sommes conditionnés à aimer, par l'éducation, par les croyances, par les cultures, par les religions. Il y a cette notion de châtiment divin qui fait qu'on pourrait nous punir. Dieu pourrait nous punir si nous sommes méchants. Cette notion d'enfer et de paradis qui n'existe pas, tout comme Papa Noël pourrait nous punir, pourrait ne pas nous apporter de cadeaux, pardon, si nous ne sommes pas gentils. Nous sommes élevés en pensant que nous pourrions être de mauvaises personnes et qu'en plus, si nous sommes de mauvaises personnes parce que nous allons faire des bêtises, parce que nous n'allons pas obéir aux parents, parce qu'on va juste vivre de manière spontanée comme un enfant de 5 ans va le faire, on pourrait en fait ne pas avoir de cadeaux et ne pas être aimé. Et nous sommes conditionnés par tout ça. Et depuis des siècles et des siècles et des vies, nous portons tout ça. Et contrairement aux âmes jumelles qui s'aiment naturellement, au-delà des conditionnements et des circonstances, de tout ce qui est vécu entre elles, elles n'ont pas de raison de s'aimer parce qu'elles s'aiment naturellement. C'est là où on rentre en conflit, en fait, en dissociation avec ce qui est sur un plan terrestre aujourd'hui, sur Terre, en troisième dimension, en 2024, lié aux conditionnements, aux peurs, aux éducations, aux religions. Et en fait, ça vient véhiculer toutes ces difficultés et faire ressortir cet amour inconditionnel, un petit peu « rappelle-toi de qui je suis pour toi et que tu m'aimes sans raison ». Donc, c'est des parcours qui sont très atypiques, qui ne se distinguent pas dans l'intensité des sentiments, parce que je trouve souvent que les gens vont confondre leur parcours entre les âmes sœurs, les liens toxiques ou les flammes jumelles, parce qu'ils sont fous amoureux de quelqu'un. Mais être fou amoureux de quelqu'un, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce qu'il n'y a pas de la dépendance? Il n'y a pas du manque? Est-ce qu'il n'y a pas de la peur d'être abandonné? Ou de l'obsession ou de la manipulation parfois? Il y a beaucoup de manipulations qui sont inconscientes parce qu'elles sont créées par les peurs. Donc, ce n'est pas l'intensité de l'amour que je porte pour quelqu'un, c'est surtout la manière dont je vais l'aimer. Et en fait, ce parcours vient faire ressortir tout ça. L'une des premières étapes, c'est celle que tout le monde va fuir, c'est la séparation. Je rencontre mon âme jumelle, mon complément, mon jumeau d'âme, celui qui me manque depuis toujours, la personne que je cherche depuis que je suis arrivé au monde, d'un point de vue terrestre, au niveau de l'âme. Cette partie de moi que j'ai envie de dépousser, de réintégrer en moi, en fait, on la reconnaît dans le cœur et il y a une séparation qui s'installe. Alors, les séparations, elles interviennent en début de parcours, elles n'interviennent pas au bout de 5 ans, au bout de 20 ans, elles arrivent très rapidement, au bout de quelques jours, quelques semaines, 2-3 mois, je ne sais pas, là aussi, je ne veux pas y mettre de date pour pas que le mental puisse venir s'attacher à quelque chose, parce qu'il n'y a pas de règle pour moi, tout est très, très aléatoire. Mais en tout cas, ça intervient toujours en début de parcours. Cette séparation ne veut pas forcément faire office de rupture. Parfois, les flammes jumelles se rencontrent, mais elles n'arrivent pas à être ensemble. C'est un peu le jeu des aimants. C'est on s'attire, mais on se répulse autant, qui fait qu'en fait, on est attiré par quelqu'un, on aime quelqu'un, mais on n'arrive pas à être ensemble. Ce que moi, je puis identifier, c'est voilà, deux séparations qui vont être différentes. On a un flirt, on a une relation qui dure une courte durée, et après, on se sépare pour se retrouver plus tard. Ou alors, ce jeu d'aimants, deux personnes qui s'aiment et qui n'arrivent pas à être ensemble. C'est ce qu'on appelle une séparation. Et cette séparation est pour moi une protection à l'amour, une préparation à l'amour. Elle induit, elle réveille cet amour inconditionnel et elle nous conduit un peu. C'est un fil conducteur. C'est dans cette période de séparation qu'on travaille l'unité. C'est parce que je ne suis pas avec l'autre que je permets de me redécouvrir moi, que je vais pouvoir faire preuve d'intériorité, d'introspection, peut-être même de recueillement, de découvrir qui je suis réellement au-delà des filtres, des apparences, des peurs, des blessures. Et c'est au contact de l'autre que toutes mes blessures les plus intimes, les plus ancestrales, vont être réveillées. L'autre ne crée aucune blessure. Il vient les réveiller. Souvent, les gens me disent « Mais comment distinguer un lien toxique d'un lien d'amour ?» C'est simple. Quelqu'un qui vient vous trahir, quelqu'un qui vient vous violer, quelqu'un qui vous tape dessus, quelqu'un qui génère de la souffrance, qui crée de la souffrance, n'est pas votre flamme jumelle. Beaucoup de personnes s'attachent à des liens toxiques pour des raisons qui leur sont propres, toujours c'est lié à la souffrance, mais ce ne sont pas des flammes jumelles. La flamme jumelle réveille vos blessures, elle ne les crée pas. Ce parcours est long, il est parfois laborieux, il est épuisant, parce que c'est un retour à soi, c'est une déstructuration. On parle souvent de nuit noire de l'âme, d'épuration, parfois même de dépression. C'est un petit peu une déstructuration de la psyché humaine, de l'émotionnel. C'est oublier tout ce qu'on m'a inculqué, tout ce que je suis, pour redevenir quelqu'un d'autre. Et ces nuits noires de l'âme, ces épurations permettent, quelque part, c'est une vacuité. On vient me vider de tous mes sentiments négatifs, de mon passé, d'oublier mon passé, d'oublier mes blessures, d'oublier toutes ces polarités négatives que j'ai pu avoir dans ma vie, de me concentrer aux polarités positives et d'aller faire émerger le meilleur de moi-même. Donc on a besoin de nous vider, ensuite on est rempli de quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus divin, des énergies qui sont complètement différentes. Le but qui est beaucoup attendu par certains, voire recherché ou inespéré pour d'autres, c'est ce qu'on appelle la réunion, c'est cette phase où le couple se forme. La grande particularité des âmes jumelles, contrairement aux âmes sœurs, c'est que les âmes jumelles se retrouvent uniquement dans le couple amoureux. Le couple amoureux veut dire deux personnes, c'est pas forcément un homme et une femme, il n'y a pas de sexualité dans l'âme, il n'y a pas de genre, ça peut être deux hommes, deux femmes ou un couple hétéro. Les âmes sœurs, elles, se retrouvent donc sur tous les plans, que ce soit professionnel, amical, dans la fratrie, vos parents, vos enfants, un inconnu, ça peut être une relation de courte durée, l'âme sœur. L'âme sœur vient réveiller ces contrats qui vont permettre d'apprendre quelque chose. Alors que l'âme jumelle, c'est exclusivement dans le couple amoureux. Vos enfants, vos parents, vos amis ne peuvent pas être votre âme jumelle, ce sont des âmes sœurs. Il n'y a pas un lien qui est meilleur que l'autre, ce sont deux liens d'amour, un naturel et l'autre créé par le temps. Donc il n'y en a pas un à fantasmer plus que l'autre. Tout le monde a des âmes sœurs et tout le monde n'a pas une âme jumelle. Tout comme sur Terre, tout le monde n'a pas un jumeau. C'est un concept qui est extrêmement rare. Rare ne veut pas dire extraordinaire. Rare veut dire rare. Et tout le monde n'en a pas. Tout le monde n'a pas ce lien d'âme jumelle ou de flamme jumelle. Je reviens au couple, du coup, au duo, de ce duo, cette réunion dans le couple. Au bout d'un parcours qui est très souvent trop long, plusieurs mois, plusieurs années, parfois des dizaines d'années, le couple arrive à vibrer cet amour inconditionnel, à se rappeler de l'autre, de qui est l'autre, de son importance pour moi et de sortir des conditions de la société, de toute cette éducation et de tout ce que nous a inculqué, et de vibrer cet amour inconditionnel. Je t'aime pas pour ce que tu es, je t'aime pas pour ce que tu m'apportes, je t'aime pas pour ton physique, je t'aime pas pour ton métier, je t'aime pas parce que t'es gentil, je t'aime naturellement, tout comme une mère aime son fils ou sa fille. La manière la plus naturelle, dénuée d'intérêt personnel et dénuée de raison. C'est un amour qui est déraisonné, absence de raison. C'est pas irraisonné ou c'est fou, c'est déraisonné, c'est dans l'absence de raison. Apparente en tout cas, parce que la seule raison d'aimer l'autre, c'est qu'il est ce que je suis. C'est une partie de moi, tout comme je suis une partie de la source. Puisque je viens de cette source d'amour inconditionnel, je suis une petite goutte d'eau de l'amour inconditionnel, je suis cet amour inconditionnel autant que l'autre est amour inconditionnel. Sors des jugements égotiques, des conditionnements mentaux, et on revient à la présence, à l'être, à se reconnaître tel que nous sommes, à cette partie de la source qui est en nous et qu'on a tous, âme jumelle ou pas. Et cette réunion, en fait, elle est souvent fantasmée par plein. Parce que forcément, quand on est amoureux de quelqu'un, on n'a qu'une envie, c'est d'être avec lui. Et que lorsqu'on est séparé de l'autre, ça va générer des peurs, la peur d'être abandonné, la peur qu'il parte avec quelqu'un d'autre, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être oublié, la peur de ne pas y arriver. C'est là où ça nous demande beaucoup, beaucoup de ressources. Cette étape, elle est importante, la réunion. Mais ce n'est pas la finalité. D'ailleurs, pour moi, dans ce parcours, il n'y a pas de finalité. L'étape que beaucoup de personnes oublient, c'est la fusion. Cette fusion n'est pas « je rentre dans l'autre, je deviens l'autre ». Surtout pas. 1 plus 1 égale 3. Le couple, comme on l'entend aujourd'hui, d'un point de vue sociétal, 1 plus 1 va faire 2. Pour certains, 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire que je me fonds dans l'autre et je me perds dans l'autre. Cette passion, cette fusion qui fait que je vais rentrer dans l'autre, je perds ma personnalité et je suis dans les compromis, dans les concessions et souvent dans le sacrifice. Le 1 plus 1 égale 2 fait que nous sommes opposés. Nous ne sommes pas en symbiose. Et souvent, il y a une relation de dominant-dominé ou de soumission à dominant. Alors que le 1 plus 1 égale 3 fait office de révélation de couple. C'est je suis moi face à toi et que nous créons une troisième énergie qu'on appelle un couple. On n'est plus séparés, mais on ne forme pas le 1, on forme le 3. Et la fusion est la cicatrisation de la blessure originelle des flammes jumelles. Alors, rappelez-vous qu'on a tous une blessure de séparation qui nous ramène à la source et que les flammes jumelles, c'est une blessure secondaire ou supplémentaire qui sera cicatrisée par la fusion. La réunion. Alors, par la fusion, par la compréhension de cette blessure, qui fait que si en apparence me faisait mal, à ma naissance, est une aubaine. Lorsque je l'ai guéri, lorsque je découvre la polarité positive de ma blessure, elle ne me fait plus mal, je reviens à l'amour inconditionnel, et je peux être heureux et libre dans l'amour inconditionnel, dans l'absence de jugement, avec l'autre. C'est pas grâce à l'autre, c'est avec l'autre. Et c'est cette étape qui est importante et qui se fait avec le temps, tout comme on va guérir d'une opération, on va faire de la rééducation, on va aller à l'hôpital, on va mettre des pansements, on va mettre des produits pour guérir. L'âme guérit sa blessure originelle, sa blessure de naissance avec le temps. C'est pas une relation sexuelle, c'est pas une situation, c'est quelque chose qui est compris, acté, intégré et vibré avec le temps.
Merci beaucoup. Ça, je pense que ça éclaire énormément. Enfin, moi, ça m'a éclairé sur la différence aussi entre âme sœur, flamme jumelle. Je suis sûre que pour les personnes qui nous écoutent, elles se sont dit « Ah oui, je pense que ça, c'était une âme sœur. Je pense que ça, potentiellement, oui, c'est ça, ma flamme jumelle. » Toujours dans ce parcours de flamme jumelle, donc il me semble que tu en as déjà un petit peu parlé, mais pour peut-être faire un petit dernier zoom là-dessus, au moment de la séparation, il me semble qu'il y a un runner et un chaser. Donc, un des éléments qui va fuir et un des éléments qui va être à la course, quoi. Je pense que la plupart des gens qui écoutent ce podcast sont les chasers. Je pense que le runner, il écoute peut-être pas trop ce podcast. Comment est-ce qu'on peut faire que la séparation, elle est moins longue, entre guillemets, peut-être moins douloureuse? Comment on peut vraiment intégrer cette séparation pour qu'elle soit bénéfique, en fait?
Peut-être tout simplement en comprenant ce que je viens de citer juste avant. Parce que souvent, on se concentre sur la polarité négative de la séparation, c'est « je ne suis pas avec l'autre ». Et la polarité positive de la séparation, c'est « elle m'apprend à aimer ». Elle m'apprend à m'aimer, elle m'apprend à aimer l'autre d'un amour inconditionnel, et d'oublier toutes ces cultures, cette éducation, tout ça. Il ne faut pas la rendre plus courte, cette séparation, parce que ce n'est pas possible. Va à l'hôpital, fais-toi opérer de l'appendicite, une opération à cœur ouvert, et dire « bon, là, dans 2 heures, je m'en vais, je rentre chez moi, je vais travailler ». Et le médecin te dira « bah non, c'est pas possible ». Non, non, jeune fille, vous allez rester alitée, vous n'allez pas bouger, on va s'occuper de vous, et vous n'allez rien faire. Il n'y a rien à faire. Et la séparation, en fait, on est toujours dans l'action. Je veux faire, je veux séparer, et puis je veux aider l'autre. C'est le syndrome du sauveur. On va toujours se concentrer sur l'autre. L'autre fait pas ci, l'autre fait pas ça, l'autre ne travaille pas, l'autre n'avance pas. Et pendant ce temps-là, qu'on regarde l'autre, en fait, on s'écarte de soi. Donc, il n'y a rien à faire pour être aimé. Il n'y a rien à faire non plus pour aimer. Il y a juste à revenir à soi et à revenir dans quelque chose de naturel et de pur, de cette essence divine que nous sommes dans l'inconditionnalité. Sortir des carcans, des peurs, de tout ce qui nous induit depuis des années, voire des siècles et des siècles, et des vies et des vies. Donc on ne peut pas les courter. La seule manière de l'intégrer, c'est de la comprendre, de comprendre qu'elle est bénéfique par nature. Séparation, il n'y a rien de négatif. C'est pour ça que je parle de préparation à l'amour, de protection à l'amour. C'est une bénédiction, cette séparation. Et que c'est le plus important du parcours de flamme jumelle, c'est d'être séparé. C'est pas en étant deux qu'on travaillera sur soi. Surtout dans ce parcours. C'est l'essence de ce parcours. C'est la singularité de ce parcours. Donc on ne peut pas écourter cette séparation et que pour bien le vivre, il faut la comprendre. Mais pas la comprendre avec la tête, il faut la comprendre avec le cœur et sortir des peurs.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui?
En fait, il y a plein de choses que j'aimerais partager parce que j'ai toujours plein de choses à dire, moi.
Tu reviendras sur le podcast.
Avec plaisir. Ce que j'aimerais rappeler aux gens, c'est qui ils sont. Vous êtes, messieurs, dames, chers amis, des âmes sensibles, des âmes en parcours d'éveil, des âmes parfois en souffrance parce que vos blessures sont réactivées, mais que vous n'êtes pas là pour souffrir, vous n'êtes pas là pour galérer, vous êtes là pour avancer, pour accompagner également vos proches. Parfois, il y a des blessures que l'on porte parce que nous sommes en train de soutenir nos proches. Et c'est par engagement pour toi, c'est pas un sacrifice. Je n'hésite pas de souffrir pour les autres et de me sacrifier. Je décide de t'accompagner dans ta blessure, donc je vais prendre une partie de ta blessure, je vais prendre une partie de ta souffrance et je vais te soutenir comme je peux le faire. Et le fait de te soutenir, de te porter, va moi m'épuiser et va peut-être aussi me causer de la souffrance, de la peine. Mais c'est parce que je t'aime que je le fais. Je pense que toutes les mamans et tous les papas donneraient leur vie pour leurs enfants. Pourquoi on ne donnerait pas nos vies pour nos frères et nos sœurs? Dame, encore faut-il se rappeler de qui nous sommes et de qui sont les autres pour nous, de sortir des conditionnements. Donc rappelez-vous que vous êtes tous et toutes des gens bien, quelqu'un de bien, vous n'avez rien fait de mal, il n'y a rien à faire pour être aimé, il n'y a rien à faire pour aimer, si ce n'est revenir à soi, à cette inconditionnalité, à se détacher des peurs, des manques, que vous pouvez tout faire. Souvent, les gens n'osent pas faire. Est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux changer de vie? Est-ce que je peux déménager? Est-ce que je peux... Bien sûr que vous pouvez, il suffit de tester. Essayez, vous tomberez, ben vous allez vous relever, comme on a appris à marcher. En soi, vous êtes des êtres multidimensionnels avec des capacités insoupçonnées et très souvent inutilisées et qu'il faut vous révéler à vous et au monde. Oubliez l'influence des autres, oubliez le regard des autres. N'ayez pas honte de vous, n'ayez pas peur de vous tromper, ça n'arrivera pas. N'ayez pas peur de mal faire, ça n'arrivera pas. N'ayez pas peur de faire souffrir les autres, ça n'arrivera pas non plus. Si ça se passe, c'est que vous êtes juste dans un travail, vous réveillez votre blessure, vous voyez la blessure de quelqu'un et qu'il y a aussi quelque chose de positif à comprendre. C'est un petit peu changer de regard sur soi, sur le monde, sur ce qu'on en vit et se détacher de la matière, de la dualité, parce que nous évoluons dans un monde de dualité qui est lié à la matérialité et à ce principe d'opposition, de bien et de mal qu'il faut absolument oublier. On n'est pas... on va revenir 2024 ans en arrière, il y a un grand maître spirituel qui a laissé une prière qui s'appelle le Notre Père. Ben, j'invite chacun et chacune d'entre vous à comprendre les paroles du Notre Père. Je ne parle pas d'une prière religieuse, mais deux mots spirituels sont des clés de sagesse et à comprendre la symbolique de chaque mot et le sens caché de ce que Jésus nous a laissé. C'est les portes de la cinquième dimension, c'est l'amour inconditionnel, c'est la reliance entre le ciel et la terre, entre l'ego et l'âme. Et il y a plein de changements aujourd'hui. Donc il faut peut-être réapprendre à vivre, apprendre à être heureux, et surtout apprendre à aimer. Parce qu'on ne sait pas aimer, on aime à condition que l'autre soit là, à condition que lui aussi m'aime, à condition qu'il soit gentil avec moi, à condition que ma famille accepte et que mes amis le tolèrent et qu'il le trouve sympa. Souvent, les gens me disent « mais c'est pas un homme pour toi, oublie-le, ou une femme pour toi, il va te faire souffrir, ça va s'arrêter, et nanana, et nanana. » Ouais, mais ça dépend des filtres de la personne, des lunettes qu'elle utilise pour regarder la scène. Et en soi, vous êtes les seuls à savoir qui peut vous rendre heureux. Et l'amour, ben, ça commence par soi. Et le bonheur, c'est une création personnelle. N'attendez pas d'être deux pour être heureux. N'attendez pas d'être deux pour être aimé. Créez vos vies, créez vos bonheurs. Et l'autre deviendra un amplificateur de bonheur. C'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. Aimez-vous, vous serez aimé. Détestez-vous, votre vie sera bien vide. Donc, si je pouvais juste suggérer quelque chose ou laisser quelque chose, c'est aimez-vous et foutez-vous la paix, quoi. Vous n'avez rien fait de mal. On a tous des torts, on a tous des blessures, personne n'est parfait et il faudrait peut-être s'accueillir tel que l'on est, être bienveillant, se laisser le temps de changer et arrêter de se juger, quoi. C'est une grosse connerie, le jugement. Rappelez-vous l'histoire du Papa Noël. C'est comme la petite souris. La petite souris, c'est une grosse bêtise. Ça nous laisse penser, la petite souris, que lorsqu'on souffre, on a un cadeau. J'ai perdu une dent, j'ai souffert, on la met sous mon oreiller, hop, j'ai une petite pièce ou un cadeau. Et après, quand on est grand, qu'est-ce qu'on fait? On souffre pour attirer l'attention. On souffre pour être aimé. C'est mignon, hein, la petite souris et le Père Noël, là. Mais c'est les conditionnements. Et ça vient un petit peu nous dénaturer. C'est un petit peu ce qu'il faut oublier, à mon avis.
Et le Père Noël, c'est si tu es sage, tu auras des cadeaux?
Bien sûr. C'est à une époque, petite anecdote, c'est rigolo, ça me revient en tête. Il y a très très longtemps, je vais avoir 19-20 ans, pour une association, je faisais le Père Noël. Je me lisais en Père Noël, je visitais les familles le 24 au soir, le 25 au matin. Et j'apportais... Je passais pas par la cheminée, mais je simulais le Père Noël. Et j'ai le souvenir d'une dame qui avait un petit garçon qui avait, il était pas très grand, 5-6 ans, ce petit garçon, il jouait toujours avec les ciseaux. Et cette maman avait peur qu'il se fasse mal avec les ciseaux. Elle n'arrivait pas à lui enlever cette paire de ciseaux. Elle me dit, dites-lui d'arrêter de jouer avec les ciseaux, sinon il n'aura pas de cadeau. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Dans ma peau du Père Noël, j'ai un petit garçon qui l'arrête de jouer avec les ciseaux, qui pourrait se faire mal, qui pourrait faire mal à quelqu'un, et que s'il arrêtait pas, il n'aurait pas de cadeau. Mais je peux t'assurer que son visage, je l'oublierai jamais. La terreur dans ses yeux, en fait. Je ne sais pas s'il a eu peur de faire mal à quelqu'un, de se faire mal, la peur de ne pas avoir de cadeau, ou la peur peut-être de se dire « Merde, je suis une mauvaise personne. » Et ça, c'est un petit peu ce qu'on apprend. Alors, à la base, c'est bienveillant, parce que c'est pour protéger l'enfant. Mais ce que ça laisse supposer à l'enfant, c'est « Mon garçon, tu es pas comme il faut. Tu es une mauvaise personne. Hein. Et si tu es une mauvaise personne, tu n'auras pas de cadeau. Et si tu n'as pas de cadeau, ça veut juste sous-entendre... Hein. » Que maman ne m'aime pas et papa ne m'aime pas. Quoi de plus cruel pour un enfant de le penser qu'il n'est pas aimé par ses parents? C'est la blessure d'abandon, la blessure de rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation qui sont réveillées par les parents. Parce que derrière ces blessures, qu'est-ce que l'on perçoit, nous? C'est on ne m'aime pas. Mais c'est parce que je t'aime que je viens réveiller ta blessure la plus profonde. Et c'est toute l'essence du parcours de flamme jumelle. C'est parce que je t'aime que j'ai ravi ta blessure. C'est pas pour te faire souffrir.
Je te remercie pour ce partage. Et cet hiver, en effet, j'étais avec mes nièces et j'ai dû dire quelque chose comme il faut être sage hein, pour le Père Noël. Enfin, il n'y a pas de Père Noël chez nous, mais il faut être sage pour avoir des cadeaux. Et ça peine mon conditionnement. Et ma sœur est éducatrice Montessori, elle travaille énormément avec les enfants. Et elle a repris mon propos très vite et elle a dit « Mais tu sais, quoi qu'il arrive, on t'aime quand même et tu auras des cadeaux même si... » Et je me suis dit, waouh, ok, Anoukia, il y a du taf à faire sur tes propres conditionnements, ils sortent tout seuls en fait. Donc, ouais, merci d'avoir mis ça en lumière. On pourrait repartir pour un deuxième podcast.
C'est clair.
Mais j'ai envie de préserver notre temps aussi. Donc, déjà, je voulais te remercier infiniment pour tous les partages que tu as faits lors de cet épisode. Pour les gens qui veulent te retrouver, donc tu es sur YouTube, très actif, tu as beaucoup de vidéos qui permettent aux gens d'être un petit peu guidés dans ces parcours-là et puis de se réempouvoirer. Donc je vous invite à aller voir ça. Ton oracle, donc message de votre flamme jumelle, et puis ton livre qui s'appelle, peux-tu...
Je ne suis pas tout seul dans ma tête. Et j'ai fait l'autre oracle, hein. J'ai fait donc un message de votre flamme jumelle, il y a un message de votre âme sœur. À propos des âmes sœurs, justement. Et après, il y a un petit oracle sur l'au-delà. C'est le petit oracle de l'au-delà pour avoir des messages des défunts. Donc, j'ai créé trois oracles et un livre que, si certains intéressent, vous pouvez retrouver aux éditions Contredire. Ils sont disponibles absolument partout. C'est des endroits où vous pouvez les commander.
Super. Et puis, je les mettrai en lien dans la fenêtre de l'épisode. Je te remercie infiniment, David, pour tous ces partages.
Merci à toi, Anouk.
Merci d'avoir été avec nous pour cette conversation. J'espère qu'elle a été éclairante pour toi. D'ailleurs, si tu as eu des « aha moments », des révélations ou des illuminations, alors n'hésite pas à venir nous le partager en laissant un commentaire sous le post Instagram de l'épisode. Et puis si tu apprécies le podcast, alors ça serait vraiment génial si tu pouvais te rendre sur l'application Apple Podcast pour me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit, ou bien même 5 étoiles sur Spotify. Et puis si personne ne te l'a dit aujourd'hui, ma belle, alors laisse-moi te rappeler que tu es une véritable queen et que tout est possible. Crois en toi and keep going beautiful. Je te souhaite une magnifique soirée, journée et je te dis à la semaine prochaine.